France Info. France Info, les informés, Céline Asselot.
Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Informés. On va revenir sur ce gouvernement des 600 jours, pour reprendre l'expression tout à l'heure du nouveau porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Le premier conseil des ministres de Jean Castex s'est tenu cet après-midi. Quels sont les grands chantiers, les priorités? On va se poser tous ensemble la question. On parlera aussi de l'un des ministres les plus médiatiques, maître Éric Dupond-Moretti. Un avocat en prison, le nouveau garde des Sceaux a choisi de se rendre au centre pénitentiaire de Fresnes pour son premier déplacement ce soir. On évoquera aussi la colère des féministes, pour qui la nomination de ce gouvernement est un mauvais signal, et notamment l'arrivée de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur. Et puis pendant que le nouveau gouvernement se forme et commence le travail, Emmanuel Macron, lui, s'inscrit sur TikTok. Le chef de l'État a choisi ce réseau social pour s'adresser aux jeunes. Tout à l'heure, on va se demander si c'est une bonne stratégie. Je vous présente les informés de ce soir autour de la table. Georges-Marc Benhamou, bonsoir, journaliste, bonsoir. Producteur, essayiste, notamment à vos côté Marion Mourgue, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Grand reporter politique au Figaro. Je salue également Mariam Pierzadeh, bonsoir, journaliste bonsoir. À France 24. Et bonsoir à vous, Benjamin Grange,
bonsoir.
Dirigeant de Dentsu Consulting. Vous allez nous parler du sondage Odoxa Dentsu Consulting pour France Info et le Figaro, consacré justement eh bien, à la manière dont les Français accueillent ce nouveau gouvernement. Bienvenue à tous, c'est parti pour les informés de France Info. Alors il y a eu hier l'annonce sur le perron de l'Élysée, les passations de pouvoir tout au long de la journée devant chacun des ministères. Et puis le premier conseil des ministres du gouvernement, Jean Castex, c'était tout à l'heure en milieu d'après-midi. Premier conseil des ministres pour mettre sur la table les grands sujets, les priorités. Et puis le timing, rappelé, écouté par le nouveau porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.
C'est un gouvernement de rassemblement. C'est un gouvernement des 600 jours, tel que l'a indiqué le président de la République, puisqu'il reste un peu moins de 2 ans avant la fin de ce quinquennat, et que jusqu'au dernier jour, du premier au dernier jour, nous serons pleinement à notre tâche et nous travaillerons d'arrache-pied, avec détermination, avec conviction et avec force. C'est un gouvernement de combat, puisqu'il faut se battre pour l'emploi, se battre pour la reconstruction de notre pays, pour l'émancipation, et que nous aurons à mener ce combat face à une crise sanitaire et à une crise économique historique et sans doute sans commune mesure dans l'histoire.
Voilà, le gouvernement des 600 jours, le gouvernement de rassemblement, le gouvernement de combat. Qu'est-ce qu'on en dit de ces premiers mots de Gabriel Attal ? Marion Moore, qu'est-ce que vous avez retenu ?
Alors déjà, on l'a senti assez ému, hein, le porte-parole, c'était le premier exercice. Sinon, on sent aussi cet élément de langage là qui revient, cette idée que c'est un gouvernement de combat, de mission, qu'il faut utiliser chaque heure, chaque jour, jusqu'à la fin du quinquennat, avec des priorités affichées, il l'a répété, la reconstruction, le plan de relance, les libertés, on sent que c'est aussi un axe du quinquennat, et puis il y a l'Europe. Donc il y a cette idée que, voilà, ça y est, c'est le gouvernement au travail, et chacun est à sa place.
Élément de langage, je vous vois opiner du chef.
Non, pas tout à fait. Moi, je me mets à la place de, une fois n'est pas coutume, d'Emmanuel Macron. Et en fait, le vrai problème des présidents de la République aujourd'hui, sous le quinquennat, c'est le Premier ministre. Qu'est-ce qu'on en fait ? Vraiment, ça s'est posé avec Nicolas Sarkozy, ça s'est posé avec François Hollande, dont on a même oublié certains premiers ministres, et ça s'est posé avec Édouard Philippe, avec ce dysfonctionnement aberrant, et qui est devenu plus populaire que le monarque républicain. Donc, je peux comprendre le sentiment d'impatience et de relative entrave par rapport à la prudence très conseillée d'État d'Édouard Philippe. C'est deux cultures différentes, hein. Est un inspecteur des finances plus entrepreneurial, plus aventureux, peut-être plus jeune, c'est Macron. L'autre est droit dans ses bottes, il est juppéiste et conseil d'État. Donc ça donne une certaine raideur dans l'action, et le temps passant, les commandes étant compliquées, il a pris les rênes lui-même. Donc c'est pas un gouvernement Castex, c'est un gouvernement Macron, hein, véritablement, avec finalement un retour aux origines de la Ve République. C'était, en fait, le Premier ministre était le premier des ministres pour le général de Gaulle dans la conception première. Donc Monsieur Castex est le premier des ministres d'un gouvernement resserré où on a viré les amateurs.
Alors on va en parler, hein, dans un instant, ce que pensent les Français justement de ce nouveau gouvernement. D'abord sur ces premiers mots, Mariam Pierzadeh, est-ce qu'on retient combat ? Est-ce qu'on retient aussi les 600 jours ? Est-ce que c'est une manière aussi de dire le temps nous est compté, on n'aura pas le temps de tout faire ?
Bah, le ton est donné sur ce temps qui reste, 600 jours. Là on voit bien que c'est une nouvelle équipe pour se préparer cette fin de quinquennat, parce que finalement à la fin de ce quinquennat il n'y aura pas de bilan. Ce bilan, il a été totalement annihilé par la pandémie, par la crise sanitaire et la crise économique qu'on est en train de vivre et qu'on va vivre encore. Donc il faut apporter des solutions, montrer qu'on est capable et surtout se positionner face à une opposition qui est en train de fourbiller ses armes pour se positionner face à Emmanuel Macron. Donc je pense qu'on est en train de... Oui, on est dans la deuxième phase du quinquennat, on est dans une perspective de réélection plutôt que...
On se projette alors.
Voilà, de projection plutôt que de rester dans ce quinquennat-là.
Benjamin Grange, qu'est-ce qu'ils en pensent, les Français, vous qui les avez sondés?
Alors, il y a quand même deux choses sur la situation. C'est que, en prévision de la réélection, forcément, il va falloir traiter le chômage. Et donc, en fait, tout est tourné sur l'action. Et donc, même les éléments de langage à travers les 600 jours, on est dans un compte à rebours, finalement. Parce que si le chômage, évidemment, grimpe, et on a vu que l'assurance chômage, d'ailleurs, a prévu des chiffres qui n'étaient pas du tout bons, on sait que ça va jouer de manière immanquablement sur l'élection, parce que c'est directement corrélé à ça. Alors après, les Français, qu'est-ce qu'ils en pensent? Aujourd'hui, ils ne croient pas du tout à un tournant, mais ils valident globalement le casting. C'est presque 81% des Français qui pensent que, finalement, avec ce changement de gouvernement, Emmanuel Macron ne changera pas de politique. Et d'ailleurs, quand on va plus loin et qu'on les teste sur la nature du casting, ils sont plutôt satisfaits de cette composition. Satisfaits pour deux raisons. D'abord parce que ceux qu'ils n'aimaient pas, ils sont partis. Et donc le mouvement de dégagisme, finalement, ils en sont satisfaits. Et surtout parce que les nouveaux entrants, entre les surprises et ceux qui sont plébiscités, pour l'instant, on leur donne un véritable crédit, y compris pour Jean Castex.
Donc on change pour pas trop changer. C'est un peu ça qu'ils ont ressenti.
En fait, c'est un peu un paradoxe parce que la semaine dernière, en fait, on avait posé la question après les municipales de savoir qu'est-ce que les Français voulaient. Et en fait, les Français, ils voulaient pas de changement de Premier ministre, mais à trois quarts, un changement de politique. Avec un virage, évidemment, plus écologique, plus social. Et en fait, qu'est-ce qu'on leur donne? Un changement de Premier ministre et un changement de gouvernement, et une impression que, finalement, ce changement de gouvernement ne changera pas tellement la politique.
Et on va en parler justement tous ensemble au cours des prochaines minutes. On s'interrompt un instant, le temps de faire un point sur l'actualité, puisqu'il est 20h10, c'est le Fil Info avec Stéphane Milhomme.
Et à Bayonne, la mise en examen des quatre jeunes suspectés d'avoir agressé un conducteur d'autobus dimanche soir. L'homme est depuis en état de mort cérébrale. Selon France Bleu Pays Basque, deux sont poursuivis pour tentative d'homicide volontaire. Le plus jeune a 23 ans, certains déjà connus de la police. Le parquet de Bayonne demande maintenant des placements en détention provisoire. Jean Castex, auprès du personnel hospitalier, le Premier ministre participe depuis la fin de l'après-midi au Ségur de la Santé. L'enveloppe débloquée pour ses négociations sur les salaires dépasse désormais les 7 milliards d'euros. La somme s'ajoute aux 13 milliards pour la reprise de la dette des hôpitaux. 24 heures après leur nomination, bon nombre de ministres effectuent déjà leur première visite de terrain. Le nouveau garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, achève une visite de la prison de Fresnes. Première sortie officielle. Visite du commissariat des Mureaux ce matin pour Gérald Darmanin. Bon nombre de militantes féministes critiquent la promotion de Gérald Darmanin alors qu'il est l'objet d'une enquête après une plainte pour viol. Une manifestation de quelques dizaines de femmes s'est déroulée à Paris. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, estime que le ministre de l'Intérieur doit pouvoir bénéficier de la présomption d'innocence. Et puis le taux de réussite du bac cette année est un record. 91,5% des candidats décrochent le diplôme avant même le rattrapage. Par rapport à l'an dernier, c'est une hausse de près de 14%. Cette année, à cause du coronavirus, les membres du jury se sont basés principalement sur des notes de contrôle continu.
France Info. Et tout est plus clair.
20h-21h, les informés, Céline Asselot.
Est-ce qu'on a tout changé pour ne rien changer? C'est la question qu'on se posait il y a un instant. On s'interroge ce soir dans les informés sur ce remaniement gouvernemental, sur ce premier jour du premier gouvernement de Jean Castex. C'est ce qu'on peut retenir des premiers mots, des premières annonces, des premiers déplacements aussi, où sont les priorités. On entendait tout à l'heure Gabriel Attal dire qu'il va falloir se battre pour l'emploi, la reconstruction, pour l'émancipation aussi. Je ne sais pas si le mot vous a marqué. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire et qu'est-ce qu'on peut en comprendre pour la suite, Marion Mourgue?
On a l'impression qu'en tout cas le terme liberté, citoyenneté, aussi émancipation, sont présentés de manière plus importante qu'avant. Mais on n'a pas encore le discours de politique générale du Premier ministre, on n'a pas le discours d'Emmanuel Macron, celui du 14 juillet. Donc je pense qu'il faut attendre en tout cas ces deux pistes pour savoir exactement ce qui se cache derrière ces mots assez larges pour le coup. Ce qu'on voit en tout cas aujourd'hui, c'est qu'on a des ministres qui sont assez visibles. Je pense à Éric Dupond-Moretti ou à Gérald Darmanin qui tout de suite vont sur le terrain et c'est aussi une manière d'occuper l'espace. Donc on voit déjà ces deux figures-là, plus Roselyne Bachelot, mais elle a eu la passation de pouvoir hier, qui sont déjà bien plus visibles que les autres.
Ça veut dire qu'il faut, parce que le temps est compté, comme on le disait tout à l'heure, tout de suite se mettre... aller sur le terrain au plus près, il faut changer la méthode, associer les territoires. C'est aussi ce qu'a dit Gabriel Attal tout à l'heure.
Oui, moi je crois que ce qui était frappant, en tout cas du côté du semble-t-il du pouvoir, c'est les ministres amateurs qui parlaient une nouvelle langue que les gens ne comprenaient pas. C'était le cas de Madame Pénicaud, c'est le cas de beaucoup de gens qui n'avaient pas imprimé. Donc je crois qu'ils ont viré là, de ce point de vue-là, ils ont pris des gens qui parlent cash. Darmanin parle cash, Bachelot, Dupond-Moretti.
Si ce n'est que cette nouvelle langue au début était encouragée.
Voilà, il y a un changement de cap là-dessus, c'est vrai. Mon analyse est tout à fait impressionniste. Il y a un changement de cap, en tout cas sur la question de la laïcité et de l'ordre républicain. Là-dessus, on voyait clairement, disons, on voyait une ambiguïté, disons, chez le président Macron, qui était séparé entre la ligne, disons, Terra Nova, légèrement communautariste, et la ligne Valls, qui était beaucoup plus laïque, et que le cap est donné avec Castex et avec Darmanin sur une sorte d'autorité républicaine, ce qui n'exclut pas le dialogue, etc. Mais enfin, on n'est pas dans une sorte de dérive communautariste à l'américaine tel qu'on aurait pu le craindre devant certaines ambiguïtés ou devant la position finalement assez jupéiste, c'est-à-dire assez angélique par moment de la question de l'islam politique traité par Édouard Philippe. Il avait de ce point de vue-là une marche. Donc le cap donné par Castex, par Blanquer, par d'autres ministres, par Darmanin, est beaucoup plus clair sur ce plan-là de l'autorité républicaine et de la laïcité.
Vous évoquiez le départ de Muriel Pénicaud et de sa novlangue, comme vous l'appeliez. Oui. Benjamin Grange, on voit d'ailleurs dans le sondage que vous avez réalisé qu'il y a une forme de dégagisme, en tout cas que ces ministres qui sont partis... on les regrette pas vraiment, bien au contraire. En tout cas, c'est ce que les Français vous ont dit.
Oui, c'est-à-dire ceux qui sont qui sont partis, ils sont pas du tout regrettés. En fait, près de trois quarts des Français se réjouissent du départ de Castaner, par exemple, ou de Nicole Belloubet, ou encore de Muriel Pénicaud. Ça vient de quoi ? Finalement, un mélange entre un fond d'exaspération pour certains et puis hélas pour d'autres, peut-être une action qui a été mal comprise, un manque de notoriété. Et donc finalement, ce qu'ils ont fait, parce que certains ont eu des résultats, je dirais soit c'est passé un peu trop sous silence, soit ça n'a pas suffisamment imprimé. Et donc ça... je dirais, au moment où on change d'équipe, c'est facile de dire, finalement, on les regrette pas. Ce qui est intéressant, c'est que simultanément, on a les nouveaux entrants. Et que les nouveaux entrants, il y en a qui sont dans le casting, qui a été plutôt bien choisi. D'abord, évidemment, virage plutôt côté républicain. Mais surtout, on a une Roselyne Bachelot qui est plébiscitée par les Français. C'est vraiment, une rentrée en fanfare pour plein de raisons, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une personnalité qui est très 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 appréciée, et donc on finit par avoir je suis en train de reprendre les chiffres, presque 75% des Français qui disent que effectivement c'est une bonne idée qu'elle
c'est énorme quand même, 75%.
Voilà, et donc on a vraiment ça. On a une belle surprise avec Dupond-Moretti qui est évidemment assez assez apprécié, et puis le reste, on leur donne leur chance. Donc on a un casting qui aujourd'hui satisfait les Français.
Mais si on remarque finalement, et si on écoute votre sondage, finalement il y a assez peu d'entrants, enfin il y a deux entrants. Quand on voyait sur les réseaux sociaux hier, dès que ça a commencé, on ne parlait que de Roselyne Bachelot, dont le budget est de 0,70% du budget de l'État, c'est-à-dire moins d'1%, et du poste de Dupond-Moretti. Et finalement, c'est ces deux entrants qui font l'effet waouh, l'effet novation, finalement, sur un changement de gouvernement qui est relatif, qui comporte, finalement, s'est séparé d'un premier ministre populaire, on l'a remplacé par un directeur de cabinet ou le premier des ministres, et on l'a rangé un peu les talents. Darmanin, on l'a sorti du budget, il était à l'intérieur comme Sarkozy, Blanquer a été conforté, Madame Pompier est rentrée. Mais finalement, c'est un changement assez mineur, et le véritable changement, c'est que, disons, il y a un les courroies de transmission seront plus rapides et l'Élysée pourra avoir les commandes, les coudées plus franches.
Oui, mais ces deux entrants donnent aussi l'impression d'avoir plus d'expérience.
Il y a un effet grenadine, c'est-à-dire avec deux, vous avez coloré tout le gouvernement.
Roselyne Bachelot, elle a été ministre trois fois, elle a été ministre sous Jacques Chirac, elle connaît très bien les rouages de la politique, et en plus elle est revenue en grâce avec cette pandémie, parce qu'on l'avait accusée quand même d'avoir commandé trop de masques, de gabegie d'État.
Absolument.
Et on a un avocat, moi, lorsque j'ai questionné quelques avocats hier soir, dès l'annonce de l'annulation d'Éric Dupond-Moretti, alors même s'il est très très clivant et que beaucoup critiquent sa manière de parler, sa manière assez agressive de parler à ses confrères, et en particulier à ses consoeurs, si on entend certaines, eh bien tous me disent la même chose. Au moins, on a un avocat à ce poste, donc il connaît notre métier, il sait exactement ce qu'on veut, ce qu'on demande, et c'est en ça aussi qu'il leur donne du crédit. Et je pense que avoir un avocat qui va tout de suite d'ailleurs à la prison de Fresnes, à peine nommé, donne aussi du crédit, donne du relief à des personnages qui sortent et qui n'étaient personne avant d'entrer dans ce gouvernement.
Marion Bon, vous vouliez réagir.
Oui, il y a l'affichage et il y a aussi un jeu politique derrière ce remaniement. C'est-à-dire que il y a eu deux gagnants au municipal, qui ont été les écologistes et la droite. Et là, on voit bien qu'il y a une volonté de siphonner encore plus la droite avec des ministres étiquetés sarkozystes à des postes très importants. Et on voit bien aussi que ceux qui étaient étiquetés En Marche sont pas les grands gagnants. C'est-à-dire que même Richard Ferrand commence à trouver que c'est un peu trop donné à la droite. Donc il y a tout ce jeu d'équilibre en perspective de 2022 qui se joue aussi derrière ce côté, voilà, on met des personnalités qui attirent la lumière, mais derrière il y a aussi les coulisses.
C'est du recentrage, on peut dire ça comme ça ?
Non, moi, je pense qu'il y a un, professionnalisation, et deux, il a été piqué dans le vivier de la droite, les meilleurs. Alors il se trouve que le vivier de la droite, il est sarkozyste, et pas, il paraît que l'ancien président et le nouveau se parlent beaucoup, mais il a été cherché, il n'avait pas beaucoup de choix, parce que le vivier est restreint, justement. La République En Marche n'a pas réussi beaucoup le crash test, il ne reste pas beaucoup de révélations, pas beaucoup de talents. Même Marlène Schiappa, qui était une des créatures ou des créations de ce gouvernement qui était en côte, a été rétrograde. Peut-être qu'elle en est un peu trop fait, enfin voilà. Non, pour le reste, c'est assez bluffant, effectivement, ce qui se passe avec Dupond-Moretti. Quand il dit « on va se réinventer », le président Macron, bah, c'est effectivement là-dessus, sur des postes, effectivement, c'est assez audacieux, c'est assez culotté, et je trouve que le résultat peut être très intéressant si l'administration ne mange pas Dupond-Moretti. Mais c'est quelqu'un d'intelligent, il a du Jean Gabin, il a du Victor Hugo, c'est pas simplement un ours brutal, c'est quelqu'un de beaucoup plus complexe, construit, et moi je lui souhaite bonne chance, ça fera du bien dans cette institution.
On va continuer à évoquer ce gouvernement des 600 jours, ce gouvernement de combat, pour reprendre l'expression de Gabriel Attal, dans les informés qui continuent sur France Info. On fait le point sur l'actualité de ce mardi soir, puisqu'il est 20h20, c'est le Fil Info avec Stéphane Milhomme.
Et ce record cette année pour le bac, alors que les 740 000 candidats et candidates ont été notés sur les seules notes de contrôle continu, le taux de réussite est de 91,5%, presque 14% de plus par rapport à l'an dernier. Record avant même le rattrapage pour ceux à qui il va manquer quelques points pour décrocher le diplôme. Une enquête pour violence volontaire ouverte contre un acteur de la Comédie française. Une jeune femme en appelle à la justice pour avoir été frappée violemment à trois reprises par son ex-compagnon, selon le parquet de Paris. Les faits se seraient produit en mars et mai dernier. Elle dit avoir des enregistrements de son agresseur présumé avec menace de mort. Le nouveau garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, achève la visite de la prison de Fresnes. Sa première visite officielle, visite du commissariat des Mureaux ce matin pour Gérald Darmanin, le nouveau ministre de l'Intérieur, attendu ce soir dans le Lot-et-Garonne pour soutenir les gendarmes après la mort de l'une de leurs collègues tuée le week-end dernier par un chauffard. Jean Castex organisera un séminaire gouvernemental samedi matin pour avancer, selon les propres termes employés par le Premier ministre. En attendant, il participe ce soir au Ségur de la Santé. Les négociations sur les salaires du personnel hospitalier. Le gouvernement prêt désormais à porter une enveloppe de plus de 7 milliards d'euros à destination du personnel soignant. Et puis Jair Bolsonaro, contaminé à son tour par le coronavirus. Le président du Brésil l'annonce après avoir été testé à la suite d'une forte fièvre. Lui qui a toujours minimisé ce virus et le moyen de se protéger. Le Brésil compte près de 65 000 morts depuis le début de l'épidémie.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Céline Asselot.
Les informés passent en revue ce nouveau gouvernement qui va se battre. Ce sont les mots du nouveau porte-parole Gabriel Attal pour l'emploi, pour la reconstruction et pour l'émancipation. Bref, on n'a pas beaucoup parlé environnement finalement au cours de cette première journée. Mariam Pirzadeh, est-ce qu'il faut en tirer une leçon pour la suite ?
C'est compliqué pour le moment à savoir. En tout cas, Barbara Pompili, voilà, c'est un signal qui est envoyé avec un tournant qui est l'écologique. On a l'impression que c'est pas non plus la priorité qui est donnée à l'écologie, même si j'ai l'impression que chaque passation de pouvoir, du moins dans les secteurs économiques, il y a une petite musique environnementale qu'on a entendue lors des discours. Il faut attendre de voir ce que ça va donner encore.
En tout cas, Benjamin Grand, si j'en crois votre sondage, les sympathisants écologistes, ils sont les plus réticents, en tout cas ceux qui croient le moins à un changement de politique après la nomination de ce nouveau gouvernement.
Oui, en fait, dans les plus positifs, on a évidemment La République En Marche et Les Républicains. Évidemment, c'est ceux qui sont, si je mets de côté La République En Marche, les mieux servis dans ce gouvernement. Évidemment, avec le reste, tous les opposants qui ne croient pas à un changement de politique. Le point qui est important sur votre point, justement lié à l'environnement, c'est que après les municipales, il se trouve que les Français voulaient vraiment un changement de politique, avec presque trois quarts d'entre eux qui réclamaient un changement de politique. Comment l'incarner ? C'est un vrai sujet. Et donc, il faudra, dans les premiers temps et dans ces deux ans, en tout cas, arriver à concrétiser cette convention citoyenne, puisque la phrase était « je prends tout ». Et je pince évidemment à l'Assemblée. Et puis la poussée verte dans ces élections, qui n'est pas forcément une France qui s'est verdie, c'est simplement une poussée, en tout cas une mobilisation des électeurs écologistes. Comment arriver évidemment à leur donner satisfaction ? Aujourd'hui, ça fait partie des grands enjeux, probablement que le gouvernement Castex devra s'atteler.
Vous avez dit un mot que je retiens parmi tous les propos que vous avez tenus. Vous dites qu'il faut incarner. Est-ce que justement la question n'est pas là aussi ? On a parlé de l'effet waouh de Roselyne Bachelot ou d'Éric Dupond-Moretti. Il n'y a pas forcément d'effet waouh pour Barbara Pompili, par exemple.
Non, surtout qu'elle a sa carte à En Marche et c'est assez compliqué entre Barbara Pompili et Europe Écologie Les Verts.
Donc elle vient Europe Écologie Les Verts. Oui.
Exactement. Mais Emmanuel Macron n'a jamais été crédité par les Français d'être très écologiste. Et c'est beaucoup lui reproche aujourd'hui justement de ne pas en faire assez. Alors on sent qu'il a cherché une personnalité. Il y avait déjà eu Nicolas Hulot, donc il aurait fallu faire mieux en termes de personnalité vis-à-vis des Français, quelqu'un qui incarne l'écologie et ce combat-là. Ségolène Royal avait fait des offres manifestement, mais ça n'a
téléphone
pas pris.
Téléphone marchait mal.
Exactement. Donc voilà, on reste un peu sur notre faim en termes de casting pour l'écologie. On va voir peut-être qu'elle fera des choses incroyables. Elle est assez haut placée dans la hiérarchie gouvernementale, Barbara Pompili.
Elle est deuxième dans l'ordre protocolaire, si
exactement.
Je ne me trompe pas.
Mais pour l'instant, je n'ai pas l'impression que c'est ça qui va susciter un grand enthousiasme des Français.
En tout cas, on sent qu'il y a toujours beaucoup d'espoir, mais ça peine à se concrétiser, on peut dire ça.
Si on écoute le vocabulaire qui est employé, on parle beaucoup plus de relance, de reconstruction. Hein, cette expression reconstruction, enfin, on se croit dans l'après-guerre. Hein, c'est une expression qu'on utilisait en 1945-47. Et il semblerait que ça soit dans les priorités, y compris ce grand plan de relance qu'on nous promet pour la rentrée. Donc, quand on voit un sondage récent, qui n'est pas de chez vous, je crois, mais les priorités des Français, véritablement, après les municipales, l'écologie passe bien après, la création d'emplois, la reprise économique, la sécurité, etc. C'est dans les derniers items. Et troisièmement, je crois qu'il y a une conviction de certains sociologues qui remettent en question cette idée de la vague verte. Effectivement, faible mobilisation, poussée urbaine, alors c'est pas négligeable, mais je pense que le front, il est plutôt au combat économique et social et industriel dans cette idée de néo-chevènementisme. Et je pense qu'ils ne peuvent pas tout faire. Oui, mais il ne faut pas négliger par ailleurs le talent, les qualités de Barbara Pompili qui, comme vous venez de le dire, verra tous les écolos idéologues contre elle, évidemment, mais qui ne manque pas de talent.
Oui, il y a en fait deux manières de voir cette poussée environnementale. Soit on considère que c'est un ministère qui doit l'incarner et qui, lui tout seul, va être capable d'insuffler quelque chose de concret, soit on considère que, et je vous rejoins, que la reprise économique est en fait majeure. Et d'ailleurs, si on cite grosso modo le principal motif d'inquiétude des Français, presque trois quarts d'entre eux se disent pessimistes sur la croissance et sur le pouvoir d'achat. Et là, c'est peut-être aujourd'hui aux entreprises d'avoir cette logique très concrète. à la fois d'insuffler ou d'être des acteurs, évidemment, de cette reprise économique, aidés évidemment par les mesures gouvernementales, mais surtout en prenant en compte les potentialités environnementales, toute cette vague de responsabilité sociale, et finalement d'arriver à concilier sur le terrain économie et écologie.
C'est conciliable, vraiment ?
C'est compliqué parce que pour mener une politique environnementale crédible, c'est une politique gouvernementale qu'on doit mener sur le long terme, sauf qu'il n'y a plus de temps, on n'arrête pas de le rappeler, il reste 600 jours avant l'élection. Et donc là, les Français, en plus, sont inquiets pour leur avenir, ils veulent des résultats tout de suite, donc ça paraît difficilement conciliable de mettre un peu plus de vert dans nos modes de vie, dans notre manière de consommer, dans notre manière de faire notre économie aussi.
Y aura-t-il plus d'écologie dans ce nouveau gouvernement Castex ? On continue dans les informés ce soir de France Info à détailler les priorités, les chantiers, le casting aussi de ce nouveau gouvernement. Mariam Pirzadeh, Marion Bourg, Georges-Marc Benamou et Benjamin Grange restent avec nous, les informés de France Info. On se retrouve dans quelques secondes.
La paire.
Qu'est-ce qui... Mais ferme-toi !
Alors comme ça, vous n'avez pas envie d'entendre votre fenêtre claquer toute la journée ? Pour un été à prix doux, jusqu'au 3 août, La Paire vous offre jusqu'à moins 25% sur les fenêtres graphiques en aluminium sur mesure. Écoutez comme c'est calme.
Chérie, t'es où ?
La Paire, le savoir bien faire. Cuisine, salle de bain, menuiserie.
Conditions sur lapaire.fr.
L'info actualisée en permanence, c'est le fil info de France Info.
Avec France Info, je suis toujours bien informé.
Pour avoir l'info en temps réel, dès qu'il se passe quelque chose.
Toutes les 10 minutes...
L'objectif est affiché, faire de la France la première nation productrice de véhicules propres en Europe.
L'info en temps réel, c'est le fil info de France Info.
France Info Météo, avec le CIC. Agir sur le terrain, près de vous maintenant. CIC, reconstruisons dans un monde qui bouge.
Les prévisions météo avec Elodie Calac.
Encore ensoleillé demain, mais une dégradation gagnera les côtes de la Manche, les Hauts-de-France, les Ardennes avec beaucoup de nuages. Sur le Nord-Pas-de-Calais, ce sera pluvieux. De la Bretagne vers l'intérieur de la Normandie, l'Île-de-France, le Grand Est, des passages nuageux mais aussi de belles éclaircies. Plus au sud, un beau soleil, à peine quelques nuages en montagne l'après-midi. Les températures poursuivront leur hausse, comptez souvent 8 à 15 degrés le matin, jusqu'à 18 à 22 pour le sud-est. L'après-midi, il fera 19 degrés à Lille sous la pluie, 21 à Brest, 27 degrés à Nancy, Paris et Nantes, 29 à Nevers et Ajaccio, 31 à Lyon et à Bordeaux, 33 degrés à Toulouse et 34 degrés à Nîmes.
Très belle soirée à l'écoute de France Info, il est 20h30. Un nouveau point sur l'actualité avec Claire Briguet-Lamarre.
Ce n'est pas un bac au rabais, assure le SNES FSU. Les résultats du bac qui sont donc tombés et ils sont historiques. 91,5% de réussite avant rattrapage. C'est quasiment 14% de plus que la session de l'an dernier. Il n'y a pas eu d'épreuve à proprement parler cette année pour cause de Covid-19. Jean Castex à la table des négociations du Ségur de la Santé ce soir. Concertation sur l'avenir de l'hôpital public et sur les revalorisations des carrières et des salaires. Le Premier ministre qui promet une enveloppe de plus de 7 milliards d'euros. Pas suffisant, répond d'ores et déjà la CGT. Les discussions pourraient se poursuivre une partie de la nuit. Déplacement ce soir à Bayonne pour Jean-Baptiste Djebbari. Le ministre des Transports est arrivé il y a quelques minutes après l'agression très brutale d'un chauffeur de bus qui est en état de mort cérébrale. 4 personnes sont mises en examen, dont 2 pour tentative d'homicide volontaire, accusées d'avoir roué de coups la victime. C'est au personnel pénitentiaire de la prison de Fresnes qu'Éric Dupond-Moretti a dédié son tout premier déplacement. Une visite symbolique parce que cette prison est emblématique des problèmes des conditions carcérales très dégradées que l'on rencontre en France. Réagit sur France Info la directrice de la section française de l'Observatoire international des prisons. Le nouveau gouvernement qui se veut au travail, gouvernement de combat, gouvernement des 600 jours, avec un premier séminaire dès samedi et un discours de politique générale qui sera prononcé la semaine prochaine. Il l'a annoncé lui-même, Jair Bolsonaro, président brésilien, est positif au coronavirus. Dans une interview à la télévision, il dit se sentir parfaitement bien. Le pays compte 65 000 victimes du virus. En France, Jérôme Salomon, le numéro 2 de la santé, prévient dans une interview au Figaro, il faut se préparer à une reprise de l'épidémie de coronavirus, voire à une deuxième vague. C'est ce qu'il a indiqué donc dans les colonnes du journal.
20h, 21h, France Info, les informés, Céline Asselot.
en cette première journée du gouvernement Castex. Quelles sont les images fortes, les priorités affichées, les oublis aussi peut-être, les premières polémiques. On va parler dans un instant de la bronca des féministes après l'arrivée de Gérald Darmanin à l'intérieur, de la communication du président qui tente de s'adresser aux jeunes sur le réseau social TikTok. Toujours à mes côtés dans Les Informés, Marion Mourgue, grand reporter politique au Figaro, Marianne Pierzadeh, journaliste à France 24, Georges-Marc Benamou, journaliste, producteur, essayiste, et Benjamin Grange, dirigeant de Dentsu Consulting. On détaille d'ailleurs depuis 20h les résultats de votre sondage Odoxa Dentsu Consulting sur la manière dont les Français accueillent justement ce nouveau gouvernement. Les Informés continuent. Le débat se poursuit tout de suite. Et je vous propose d'évoquer maintenant la nomination qui a sans doute suscité le plus de réactions aujourd'hui. On l'a d'ailleurs un petit peu évoqué, impossible de ne pas en parler lorsqu'on évoque ce remaniement et ce nouveau gouvernement Castex. C'est cette nomination qui a sans doute aussi suscité le plus de métaphores. L'ogre des assises, devenu ministre, c'est le titre qu'a choisi le journal Le Monde à propos, bien sûr, d'Éric Dupond-Moretti. L'Union syndicale des magistrats avait parlé d'une nomination en forme de déclaration de guerre. Voilà ce que le nouveau ministre leur a répondu tout à l'heure lors de la passation de pouvoir.
Je ne fais de guerre à personne. Je veux avec vous garder le meilleur et changer le pire. J'entends bien sûr, dans le dialogue et la concertation, faire évoluer la magistrature dans le sens d'une plus grande ouverture sur la société et remettre à plat l'ordonnance de 58. Je veux avancer sur un projet qui me tient à cœur, l'indépendance de la justice. Je souhaite être le garde des Sceaux qui portera enfin lors d'un congrès la réforme du parquet tant attendue.
Alors je veux garder le meilleur et changer le pire. Il parle bien évidemment de la justice, mais est-ce qu'il parle pas un petit peu de lui aussi, Georges-Marc Benamou? Est-ce qu'on peut dire qu'il promet ainsi peut-être entre les lignes de gagner un petit peu en rondeur?
Écoutez, en tout cas, ça a le mérite d'être une surprise et un débat après une dizaine de ministres de la justice dont est-ce qu'on se souvient du nom du dernier, de l'avant-dernier, avant Madame Belloubet. On voit bien que depuis quelques grands ministres de la justice, depuis en gros Robert Badinter, c'est-à-dire bientôt 40 ans, il n'y a pas eu de grandes réformes pénales, de grands gestes et d'une administration vieillissante, compliquée, complexe, qui entretient des rapports névrotiques avec le pouvoir exécutif, la séparation des pouvoirs étant mise à mal, comme on l'a vu récemment avec le parquet financier, les prisons dans un état qui est toujours déplorable. Donc il y a là une idée assez lumineuse. On verra si c'est une idée forte, c'est-à-dire cette idée aussi que Emmanuel Macron cherche son Robert Badinter. Comparaison n'est pas raison, mais c'est ça un peu l'ambition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la peine de mort là, mais il y a un enjeu qui est la réforme profonde de la justice et de l'indépendance, si c'est le véritable dessein, ou bien si c'est un des gadgets qui parsème l'histoire de la Ve République avec des démissions fracassantes, Jean-Jacques Servan-Schreiber pour les plus anciens, Léon Schwarzenberg, etc. Moi je souhaite de tout mon cœur, car c'est un homme qui a du talent, j'ai dit, il y a quelque chose d'hugolien qui parle aux Français, qui parle au peuple, qui parle aux tripes. Je souhaite sa réussite.
Oui. Il sera le Robert Badinter d'Emmanuel Macron, selon vous, Marion Mourgue?
C'est le pari que fait Emmanuel Macron. Il voulait vraiment une personnalité de poids. Il a, semble-t-il, aussi un peu hésité avec le procureur Molins à un moment. Est-ce que ça va marcher? Les magistrats étaient assez sceptiques hier.
C'est moins qu'on puisse dire.
Donc on va voir si la mayonnaise prend. Ensuite, c'est un avocat, c'est un orateur. Donc on voit que l'exercice des questions d'actualité, à mon avis, il va y prendre plaisir. Et ça fait partie du boulot d'un ministre quotidien. Mais encore une fois, c'est un peu tôt. Parce que pour l'instant, il y a des mots qui sont posés. Sa première journée s'est plutôt bien passée, mais il faut voir s'il a le soutien ensuite de l'ensemble des professions.
Est-ce qu'il a le soutien des Français, d'après votre sondage?
Il a pour l'instant le soutien des Français. C'est une entrée évidemment fracassante, mais qui est saluée, puisque 40% des Français s'en félicitent. Cependant, 33% désapprouvent ce choix. Donc en fait, qu'est-ce qui est marqué et qu'est-ce qui est marquant? C'est ses prises de position. Il nous a habitués à un discours assez franc. Il nous a habitués finalement, en tant qu'avocat, à être vraiment un avocat extrêmement singulier. Et donc, à travers ça, on a quelqu'un qui arrive, qui a de la notoriété, on a quelqu'un qui est connu pour ses prises de position. Donc évidemment, il est urgent d'arriver à faire converger, concilier un peu tout le monde et donc de rassurer. Et donc c'était l'exercice de figure imposée auquel on a assisté aujourd'hui. Et en fait, avec une promesse en filigrane qui est de dire « je suis capable d'être le garde des Sceaux de tous et non pas simplement l'avocat d'une profession ».
Vous disiez qu'il est connu pour ses prises de position. Il s'est exprimé, Marianne Pirzadeh, je vous pose directement la question parce que je sais que vous avez un œil sur l'actualité internationale. On sait qu'il s'est exprimé en faveur du rapatriement des djihadistes français de Syrie, d'Irak. Est-ce que le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, pourrait garder cette même ligne, ce qui serait un changement quand même dans la doctrine française?
Ah bah ça serait un changement. On est bien content que les Kurdes gardent les djihadistes français en Irak et les familles de djihadistes. Je pense qu'il va falloir qu'il mette de l'eau dans son vin pour s'adapter aussi à la ligne gouvernementale. Est-ce que là, les Français sont dans la capacité d'entendre ça, parce que là, il y a de plus en plus de pétitions, d'avocats, d'associations de droits de l'homme qui demandent à ce que ces femmes de djihadistes, ces enfants de djihadistes reviennent en France, y compris des familles de victimes, notamment des attentats du Bataclan, qui demandent à ce que ces enfants soient rapatriés parce que potentiellement dans 15 ans, ce seront, je cite, des bombes humaines. Éric Dupond-Moretti, c'est aussi l'avocat d'Abdelkader Meira, c'est l'avocat d'Abdeslam qui a finalement jeté l'éponge. On a ça aussi en tête, c'est-à-dire qu'il a défendu le droit dans son essence la plus pure, c'est-à-dire de donner à chacun le droit de se défendre, et il a été assez chahuté sur ça, notamment sur une phrase qu'il avait prononcée lors du procès d'Abdelkader Meira, lorsque la mère de Mohamed Meira avait été un petit peu bousculée. Il avait pris sa défense en disant « c'est une mère ». C'est la mère d'un mort. Donc les Français ont aussi cette image d'Éric Dupond-Moretti qui défend tout le monde. Mais je pense qu'il va falloir qu'il, justement, cette volonté, cet acquittateur, comme on le surnomme, va devoir un petit peu se couler dans le moule, en fait, dans le moule gouvernemental.
Mais en même temps, quand il choisit de faire son premier déplacement au centre pénitentiaire de Fresnes, est-ce que c'est pas aussi pour dire qu'il y a une continuité très claire avec sa carrière d'avocat de la défense, finalement?
Ou en tout cas, c'est peut-être l'avocat qui connaît l'état des prisons, puisque visiblement, c'est son premier message, c'est de dire on peut pas continuer comme ça. Et Fresnes est dans un état qui ne correspond pas à la société française. Mais je rebondis juste sur ce qui vient d'être dit, c'est que surtout, Éric Dupond-Moretti, il est identifié des Français. C'est-à-dire que quand il écrit des livres, ça se vend très bien. Quand il fait un plateau télé, ça marche très bien, à tel point qu'une radio concurrente de France Info voulait l'avoir dans sa matinale. Donc c'est surtout ça aussi, Éric Dupond-Moretti, c'est que on peut mettre un nom sur ce visage et les Français aujourd'hui ont besoin d'essayer de se rattacher à des personnalités parce que ils sont de plus en plus désintéressés de la politique, on l'a vu encore au municipal. Donc c'est peut-être ça aussi ce qui se joue dans ce casting.
Voilà, la personnalité sans doute, effectivement, on l'a dit, la plus médiatique, la plus commentée aussi de ce nouveau gouvernement qu'on continue évidemment à détailler tout au long de la soirée dans Les Informés, 20h40. On fait d'abord un point sur l'actualité avec Claire Briguet-Lamarre, il est 20h40.
L'enquête avance à Bayonne après l'agression d'un conducteur de bus. 4 personnes sont mises en examen, dont 2 pour tentative d'homicide volontaire. Accusé d'avoir roué de coups la victime en état de mort cérébrale. Le ministre des Transports est arrivé sur place il y a quelques minutes. Soutien aux forces de l'ordre dans le Lot-et-Garonne pour le premier flic de France, Gérald Darmanin, en déplacement après la mort d'une jeune gendarme percutée par un chauffard samedi. Il s'est adressé au personnel pénitentiaire Éric Dupond-Moretti à la prison de Fresnes en ce début de soirée, l'une des plus surpeuplées de France. Un peu plus de 7 milliards d'euros sur la table du Ségur de la Santé. Jean Castex assiste à la reprise de ces négociations. Concertation entre syndicats et gouvernement sur la revalorisation des salaires et des carrières à l'hôpital public. Mais 7 milliards d'euros, ça ne suffira pas, répond la CGT. Le gouvernement qui se veut au travail, gouvernement de combat, gouvernement des 600 jours, avec un premier séminaire samedi, discours de politique générale attendu la semaine prochaine. L'appel à la prudence du ministère de la Santé. Dans une interview au Figaro, Jérôme Salomon le dit, il faut se préparer à une reprise de l'épidémie de coronavirus, voire à une deuxième vague. Cet après-midi, le président brésilien a annoncé lui-même qu'il était positif au coronavirus.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés. Céline Asselot.
Alors, il ne fait pas partie des nouveaux visages de ces ministres à effet waouh, comme on le disait tout à l'heure pour Éric Dupond-Moretti, mais sa promotion a provoqué des réactions et a provoqué notamment la colère des féministes. Gérald Darmanin est le nouveau ministre de l'Intérieur, lui qui est visé par une plainte pour viol. Pas un obstacle, selon l'Élysée, mais tout de même, cela froisse, c'est le mot est faible, les militantes féministes qui ont organisé plusieurs rassemblements aujourd'hui. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a dû s'en expliquer tout à l'heure à l'issue du Conseil des ministres.
On ne peut pas d'un côté sacraliser la présomption d'innocence en toutes circonstances et considérer que c'est un socle essentiel de notre pays, ce qui est notre cas, je crois, et je l'espère à tous, et considérer qu'il y aurait des personnes qui, par la fonction qu'elles occupent, ne pourraient pas bénéficier de cette présomption d'innocence. Il y a des investigations, elles se tiennent, et c'est normal, on est en état de droit. Mais on ne peut pas aller plus loin que ça en considérant que finalement, parce qu'il y a des investigations, il y aurait une impossibilité à exercer dans un gouvernement.
Alors qu'en pensez-vous de ces réactions qui sont provoquées par l'arrivée de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur, lui qui était déjà ministre, on le rappelle, des
comptes publics. Il a raison, la présomption d'innocence, il n'est pas condamné. Après, lorsque je regardais ce remaniement, parce que c'est une promotion qu'il reçoit Gérald Darmanin, donc on se dit que l'Élysée est consciente
on ne découvre pas,
est consciente que potentiellement il peut être mis en examen dans une affaire de viol. Après, il a raison, et d'ailleurs on parlait d'Éric Dupond-Moretti qui défend, et d'ailleurs c'est l'un de ses chantiers, il veut absolument renforcer la défense de la présomption d'innocence, il veut mettre fin à, je cite, les tribunaux médiatiques que la justice suive son cours. Là, Gérald Darmanin n'est pas condamné, donc pour le moment il faut laisser la justice faire son travail.
Alors, présomption d'innocence, mauvais signal envoyé aux féministes, un peu des deux.
Oui, en fait, quand on écoute les féministes, la manière dont tous ces mouvements parlent, évoquent en fait ces nominations-là sur Internet, on a deux natures de choses. Évidemment, on a Darmanin avec la présomption d'innocence. Évidemment, c'est un signal, même s'il faut respecter la présomption d'innocence. Et puis, deuxième chose, on a aussi toutes les déclarations de Éric Dupond-Moretti, puisqu'en fait, à plusieurs reprises, il a manifesté une forme d'opposition par rapport au harcèlement de rue, par rapport au mouvement MeToo. Il a même pendant l'affaire Daval, je pense à 2018, il avait pris la parole sur l'utilisation et surtout sur l'utilité du terme féminicide. Et donc toutes ces déclarations-là, toutes ces déclarations-là, elles marquent. Alors associé à ça, on a une Marlène Schiappa qui, pour l'opinion publique, était connue, faisait du bon boulot, était perçue comme faisant du bon boulot, et était connue en plus de tous ces mouvements féministes. Donc en fait, on se retrouve avec quelqu'un de connu qui s'en va, et puis laissant la place finalement à deux mâles blancs qui, parfois, peuvent tenir des propos, en l'occurrence, qu'ils peuvent prendre en boomerang. Voilà la situation. Donc forcément, les mouvements féministes sont extrêmement remontés quand on les écoute.
Est-ce que le risque, c'est que le gouvernement devienne moins audible autour toutes ces questions de l'égalité femmes-hommes, des violences faites aux femmes?
Faut pas négliger que, même si c'est moins, les spots sont moins braqués sur elle, il y a une successeur qui a l'air de qualité, Madame Moreno.
On n'en parle pas assez d'ailleurs, c'est dommage.
Qui a fait une très belle entrée en matière, moins médiatique, peut-être que Madame Schiappa, qui a des postes régaliens, Madame Parly, Madame Pompili, si c'est pas régalien, le numéro 2 du gouvernement, etc. On verra comment évolue cette polémique. En tout cas, moi, je pense qu'on est dans une culture française et voltairienne, c'est-à-dire, de ce point de vue-là, il n'est pas condamné, et tant qu'il n'est pas condamné, il y a la présomption d'innocence, ça c'est sûr. Alors après, si c'est autrement, peut-être la société évoluera autrement.
Ce qui peut être gênant pour le gouvernement, c'est si les FEMEN ou d'autres associations manifestent bruyamment et quotidiennement. On a eu un petit exemple aujourd'hui.
Il y a eu quelques manifestations également des FEMEN, des collectifs toutes.
Ouais. Alors que les deux ministres n'ont qu'un jour d'ancienneté à leur poste. Donc si c'est tous les jours récurrent, ça veut dire qu'il y a un moment, ça sera très compliqué d'avoir une action politique.
Parce que Mariam Pirzadeh le rappelait, on ne découvre pas, le gouvernement ne découvre pas que son nouveau ministre de l'Intérieur est visé par cette plainte. Donc c'est pleinement assumé aussi, cette nomination.
Oui, mais le risque serait grand et ce serait normal. Et moi, je pense qu'on protesterait s'il était, comme ça pourrait se passer au Brésil, par exemple, s'il était condamné et nommé ministre. Là, ça deviendrait un scandale public et légitime.
Scandale d'État, oui.
Et un scandale d'État. Là, pour l'instant, il est mis en examen. Mmh. Alors, on lit dans les journaux des tas de choses, etc. On verra bien ce qui sort du jugement. Et à ce moment-là, selon moi, en tout cas, selon c'est les normes dans lesquelles je crois, alors elles peuvent évoluer, et il sera toujours temps de descendre dans la rue s'il garde son poste condamné, ce qui m'étonnerait, si toutefois il était condamné.
Il faut quand même rappeler que l'enquête a été rouverte, oui. Mais il y a un moment, ça donnait l'impression que l'histoire s'arrêtait là, et que ça avait été jugé de manière favorable pour Gérald Darmanin. Donc il faut aussi voir les différentes étapes après.
Mais il y a le contexte quand même que rappelait Benjamin Grange. Il y a ce contexte aussi où on a tenté de faire justement de la cause des femmes par plein d'aspects un chantier primordial de ce début de quinquennat. Est-ce que là on brouille pas un peu le message quand même ?
Ce qui est dommage, c'est que vous parliez tout à l'heure d'Elisabeth Moreno, qui a fait énormément de choses quand elle était chez Hewlett-Packard. C'est dommage que son entrée n'ait pas été un petit peu plus médiatisée.
C'est un peu un oubli, je suis
voilà.
D'accord.
Oui. Pardon.
C'est un peu un oubli, selon vous.
Je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est dommage qu'elle soit pas rentrée avec un petit peu plus, comment dire, de tambour et trompette, parce que en tout cas, ça aurait permis de faire un peu plus le contrepoids par rapport à cette polémique ou ces éléments de polémique dont on parle.
Oui, on a retenu que les arrivées et que l'arrivée du Pomoretti. Je pense qu'il y a d'abord eu le choc, et après on s'est rendu compte que c'était réel, parce qu'il allait devenir vraiment garde des Sceaux, puis Roselyne Bachelot qui tout de suite est devenue ministre de la Culture. Mais c'est dommage parce qu'Elisabeth Moreno, elle a un vrai profil. C'est une femme qui s'est faite toute seule, une enfant de la République en fait, une enfant d'immigrée qui est arrivée, qui s'est servie de l'école pour s'en sortir, et elle a un très beau parcours, et c'est dommage parce qu'elle a complètement été occultée par l'arrivée de ces deux entrants, et je pense qu'elle va pouvoir faire des choses. Je pense qu'elle aura voilà, une aura peut-être plus forte que Marlène Schiappa, et puis en plus elle a un ministère global, elle a l'égalité des chances, l'égalité homme-femme. Voilà, en ce moment où on en parle dans le monde entier, où il y a une vraie remise en question, une vraie remise en cause, c'est un ministère qui pour moi est capital et qui est un peu passé à la trappe malheureusement.
Donc ça va se rééquilibrer,
c'est ce que vous dites. Oui, on peut l'espérer, parce qu'il n'y a pas que la chasse à Monsieur Darmanin, en tout cas, il y a des questions réelles. L'égalité salariale, elle progresse depuis 20 ans, mais on est encore loin du compte. Alors il y a des lois, mais elles ne sont pas appliquées, ça c'est un vrai combat. Dans le plan de relance, le chômage va frapper, il va frapper beaucoup. Où les femmes, comment on s'en sort. Enfin, il y a encore beaucoup de chantiers sociaux et économiques aussi. Donc là, peut-être qu'ils n'ont pas besoin de Madame Schiappa, et peut-être qu'effectivement ils mèneront cette politique.
Donc ça veut dire que dans les prochains sondages d'Ansu Consulting, on va peut-être poser la question aux Français de savoir ce qu'ils pensent d'Elisabeth Moreno, qu'on n'a pas beaucoup entendu, Benjamin Grange.
Oui,
je vous pose la question en forme de boutade.
Non, mais forcément, ce qui est toujours très compliqué, c'est d'arriver à tester des ministres ou des personnalités qui ont peu de notoriété, c'est-à-dire qui sont peu connus, parce que c'est très compliqué d'arriver à dire finalement j'apprécie son action ou je lui donne son crédit quand effectivement on les connaît pas. D'où l'intérêt de les faire rentrer, je dirais, avec l'aura qui va bien.
20h50, restez avec nous, les informés poursuivent leur débat dans les prochaines minutes, le temps de faire le point sur l'actualité de ce mardi soir. C'est le Fil Info, c'est avec Claire Briguet-Lamarre.
Un peu plus d'un milliard d'euros supplémentaires pour les augmentations de salaire des soignants à l'hôpital. Jean Castex l'annonce, il assiste au Ségur de la Santé. Cette concertation avec les syndicats et le gouvernement. Ce soir, les négociations portent plus spécifiquement sur les revalorisations de salaire et de carrière du personnel paramédical. Le ministre au transport est arrivé à Bayonne, où un conducteur de bus a été brutalement agressé. 4 personnes sont mises en examen, dont 2 pour tentative d'homicide volontaire, accusées d'avoir roué de coups la victime. Soutien aux forces de l'ordre du nouveau ministre de l'Intérieur dans le Lot-et-Garonne ce soir, où une gendarme est morte samedi, percutée par un chauffard. C'est au personnel de la prison de Fresnes que le garde des Sceaux a dédié son tout premier déplacement tout à l'heure. Éric Dupond-Moretti qui promet réforme et dialogue à toute la famille judiciaire. Jair Bolsonaro, président brésilien positif au coronavirus, il l'a annoncé lui-même il y a quelques heures. Un taux de réussite historique, 91,5% de réussite au bac avant rattrapage, c'est du jamais vu. Cette année, évidemment, session très particulière, passée entièrement au contrôle continu pour cause de coronavirus.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés.
Céline Asselot.
Et justement, pendant que le gouvernement se met au travail, le gouvernement de combat, des 600 jours, le temps est compté, on le disait tout à l'heure, Emmanuel Macron lui félicite les nouveaux bacheliers. Il leur dit bravo et bon courage, écoutez.
Si vous venez d'avoir votre bac, ce message est pour vous. D'abord pour vous dire bravo, félicitations. C'est le fruit de votre travail, de votre engagement. Alors maintenant, fêtez-le, profitez-en. Je voulais aussi vous dire que vous êtes cette génération qu'on appelle parfois du monde d'après. Vous avez vécu une année hors norme. Votre génération a donc devant elle un monde à inventer, plus fort, plus solidaire, plus écologique. Alors aujourd'hui, profitez, fêtez le baccalauréat et après, bon courage.
Voilà, bon courage aux jeunes bacheliers. C'est le message du chef de l'État qui a choisi pour s'adresser à ces jeunes le réseau social TikTok. Alors si vous ne connaissez pas, c'est sans doute que vous avez plus de 20 ans. TikTok, c'est le nouveau réseau social plébiscité par les jeunes. 800 millions d'utilisateurs chaque mois dans le monde. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une fausse bonne idée? C'est pas très crédible? Ou bien au contraire, c'est innovant de s'adresser aux jeunes
pub,
sur TikTok?
C'est comme la pub sur ses montres il y a une trentaine d'années. Ça fait parler, donc ça marche.
Ça fait parler, donc ça marche.
Voilà. Alors, est-ce que TikTok sera à la mode dans 6 mois? Moi, mon fils de 20 ans me dit ça va pas tenir, c'est un sous Snapchat, donc il va y avoir des guerres. Snapchat. Mais évidemment, on en parle autour de cette table, on en parle chez les 20 ans et chez les 15 ans qui sont, paraît-il, plus consommateurs les TikTok que les grandes 20 ans.
Mais il y a un peu un décalage entre le support et le message, c'est-à-dire que sur TikTok, les jeunes ne sont pas là pour écouter un message politique, c'est des vidéos qui s'échangent, enfin... C'est comme une sorte d'incompréhension de ce réseau social par Emmanuel Macron et donc presque un échec de sa stratégie.
Pourtant, les chiffres, ils sont pas si mauvais. Hein. 52 000 likes en une heure, 100 000 abonnés. Bon, je sais pas si c'est beaucoup par rapport à...
C'est vrai que c'est bizarre parce que TikTok, moi j'étais surprise, je m'attendais à ce qu'ils dansent parce que c'est une application où on danse en fait. C'est vrai que le message est quand même assez joyeux, je trouvais assez positif. Voilà, accrochez-vous, vous êtes la génération de demain. Mais c'est vrai que sur TikTok, il aurait pu choisir Instagram qui est peut-être plus approprié. Il aurait visé une...
C'est plus féminin. Là, hein.
Non, Instagram, c'est très utilisé par les trentenaires, par les quarantenaires, par tout le monde. Monde, en fait. Oui, mais je suis pas sûr que c'était ce soit le bon support à utiliser. Snapchat, c'est encore utilisé
Snapchat.
Ça fait vraiment débat. D'abord, il y a la première chose, c'est comment on arrive à parler aux jeunes, avec quel vecteur, avec quel média. C'est déjà un vrai sujet. Et donc, quand on se pose cette question-là et qu'on identifie TikTok, est-ce que c'est le bon support? Il se trouve que historiquement, aussi loin qu'on peut remonter sur ce média-là, évidemment, c'est plutôt quelque chose sur des vidéos un peu drôles, ces vidéos qui sont un peu montées à la volée, c'est souvent musical, c'est souvent court. Donc en fait, c'est pas du tout d'à propos pour cette chose. Donc utiliser ce canal-là, c'est vraiment faire quand même un acte de courage par rapport à un message qui est un message classique, nécessaire, un message réelien. Et donc comment ça a été perçu? Parce que c'est surtout ça. Eh ben, ça a plutôt fait sourire. Et donc finalement, entre l'usage d'un média qui est pour les jeunes, pas forcément de la manière dont on peut s'y attendre, et ben finalement ça a donné pas de trop mauvais résultats. Donc voilà, il avait déjà, il faut savoir que président Macron avait déjà utilisé WhatsApp il y a quelques mois. Donc il est coutumier en fait d'utiliser des supports, je dirais un peu alternatifs, en tout cas par rapport à la communication qu'il veut faire passer, pour essayer de toucher la vraie cible.
Enfin, oui, parce que ce sont potentiellement des électeurs aussi.
C'est la question que j'allais vous poser, parce qu'au-delà
qu'ils viennent d'avoir le bac, ils ont 18 ans, ils peuvent voter.
Donc ils auront 20 ans en 2022. Vous avez fait le même calcul que moi.
Exactement. Donc ce sont potentiellement des jeunes qui pourront voter pour Emmanuel Macron, et puis il veut montrer qu'il est dans le coup en étant souriant. Puis il a un langage en plus. Il a adapté son langage aussi. Il a un langage un peu plus courant, pas familier du tout, mais un peu plus courant. Le langage que parlent un petit peu les jeunes, quoi. Quelque chose qui est intelligible par beaucoup de personnes, je pense.
Tous les présidents l'ont fait.
Oui, chacun. On se souvient de François Hollande qui avait testé. Alors, j'ai oublié le nom du réseau social. Ça avait un peu dégénéré parce que les commentaires étaient assez critiques et donc il avait fallu stopper les commentaires. Mais on voit que chaque président tente et visiblement, comme le successeur retente, c'est que ça marche pas forcément.
C'est aussi ce qu'on disait, c'est que tous les 6 mois, il y a un nouveau réseau social à la mode, donc il faut se réadapter à des codes qui changent aussi.
TikTok a cartonné pendant le confinement. C'est là où vraiment TikTok a connu son essor, parce que c'était des vidéos, des parodies, des
justement,
parodies
c'est
de
plus
films
des parodies,
et tout ça.
On est quelque chose dans, c'est quelque chose de très léger, parodique. Et pas un message politique.
Voilà. On se déhanche sur du Rihanna, on se prend pour Rihanna, pour Beyoncé, et on balance la vidéo sur le réseau social dans le monde entier.
Ce qui est de plus plus en plus compliqué, c'est d'arriver à prendre en compte la rupture générationnelle, parce que c'est derrière ces réseaux sociaux, ces différents réseaux sociaux, en fait, on a des usages correspondant à une génération. Et donc, il faut arriver à trouver la bonne grammaire, le bon langage, pour arriver à parler finalement à cette, comment dire, chaque fois à une génération qui a ses propres mots, ses propres codes. Vous allez me dire, ça existe depuis la nuit des temps, mais ça n'empêche que c'est quand même pas facile du tout.
Ah non, bon, c'est pas l'air facile, effectivement. C'est la rupture générationnelle.
Sur TikTok, il faut danser, etc. Donc, ils pouvaient pas le faire. Donc, on est dans une cible minimale. Non, il aurait pas transgressé. Ouais. Il est un peu trop régalien. Mais c'est de l'ordre, finalement, le vieux Macron, il nous calcule, quoi. Effectivement, dans une perspective électorale. Il fait attention à nous. Il nous envoie un message, même s'il le trouve un peu trop cravaté, un peu trop straight, etc. C'est plutôt de cet ordre-là. D'ailleurs, on voit mal, par exemple, une concurrente, genre Marine Le Pen, imaginez sur TikTok faire un message. Ouais, ça passe mal. Donc, finalement, c'est plutôt globalement réussi, sans être un tsunami.
C'est innovant.
C'est plutôt un plébiscite que vous
modérément
lui faites.
C'est pas un plébiscite par rapport à une prise de risque, parce que c'est clairement...
Elle n'est pas énorme. Il serait mis en slip de bain sur le perron de l'Élysée, je comprends.
Non, mais une prise de risque. Enfin, d'autres présidents ont essayé d'utiliser des médias dits de jeunes et l'ont pris véritablement en boomerang. Là, il l'a fait. Il y avait une petite prise de risque, alors si on veut essayer de minimiser les choses. Et globalement, c'est plutôt pas mal passé.
Bon, ben on termine sur ce plébiscite modéré donc d'Emmanuel Macron s'il s'exprime sur TikTok, ce réseau social qui nous a fait beaucoup réagir en tout cas pendant que le gouvernement se mettait au travail. Merci en tout cas à tous les quatre d'avoir participé ce soir à cette édition des Informés consacrée à cette première journée du gouvernement de Jean Castex. Georges-Marc Benamou, journaliste, producteur essayiste, Marion Mourgue, grand reporter politique au Figaro.
Merci.
Mariam Pierzadeh, journaliste à France 24 et Benjamin Grange, dirigeant de Dentsu Consulting. J'en profite pour rappeler que notre sondage Odoxa Dentsu Consulting est à consulter, c'est le cas de le dire, en détail sur notre site franceinfo.fr. Merci à tous les quatre d'avoir participé aux Informés. Restez avec nous sur France Info.